Donc on a le plaisir d'accueillir Jérôme Truc aujourd'hui, chargé de recherche au CNRS pour une intervention sur les réactions sociales aux attentats. Jérôme est chercheur membre de l'Institut des sciences sociales du politique et il a publié au PUF dans la collection Le lien social, Sidération, une sociologie des attentats en 2016. Et puis aussi, tu m'arrêtes quand je me trompe, hein, parce que tout ceci est une source internet. Tu as travaillé aussi sur les théories sociologiques et le rapport socio-philo et tu as publié « Assumer l'humanité, Hannah Arendt, la responsabilité face à la pluralité » en 2008. On a donc le grand plaisir d'inviter Jérôme. On avait envie, avec Céline Béraud l'année dernière, de t'entendre après la sortie du bouquin « Sidération, donc une sociologie des attentats », afin d'avoir accès à des travaux de recherche de sociologues sur les attentats et non des réactions à chaud. Et c'est bien le projet de l'ouvrage que tu as publié, de faire un calme examen à froid de ce que fait un attentat à une société. Donc l'ouvrage porte sur les attentats du 11 septembre aux États-Unis, du 11 mars 2004 à Madrid et du 7 juillet 2005 à Londres. Tu fais aussi référence, bien sûr, aux attentats de Charlie Hebdo de janvier 2015. Et il n'est pas fait référence dans l'ouvrage, en tout cas, aux attentats du Bataclan, car le livre a été achevé 2 mois auparavant, mais je sais que tu travailles aujourd'hui aussi sur ces questions. Donc on va avoir le plaisir de l'entendre pour un temps assez long, t'as une heure, voilà. d'engager la discussion, vous allez voir, ça pose tout un tas de questions classiques et majeures de la sociologie sur le lien social, les formes de la solidarité. Et puis je trouve que c'est aussi intéressant sur l'usage que tu as pu faire des matériaux, donc on pourra aussi peut-être engager des discussions de ce type-là. Tu as la parole.
Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être là. Bonjour à tous. Très heureux d'être à Caen, comme je le disais là, quand on était en train de déjeuner. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là. Pour vous présenter, alors effectivement, deux choses. C'est-à-dire, d'une part, donc, ce livre-là, j'ai amené mon exemplaire d'ailleurs, si vous voulez le faire passer, si certains veulent le feuilleter pendant que je parle. Vous présenter à la fois ce livre issu de ma thèse, qui est une thèse que j'ai faite à l'EHESS, que j'ai soutenue en septembre 2014, c'est pas si vieux, et les recherches que je continue à faire depuis, puisque donc, quand j'ai soutenu cette thèse en septembre 2014, j'avais déjà consacré 8 ans à étudier les réactions en Europe aux attentats du 11 septembre 2001, du 11 mars 2004 à Madrid et du 7 juillet 2005 à Londres, qui étaient à ce moment-là donc, des attentats vieux de 10 ans, voire plus. Et donc, je pensais me consacrer à d'autres objets de recherche. Et j'ai donc évidemment été rattrapé par l'actualité dans mon propre pays, et pas qu'une fois. Et donc, depuis, évidemment, maintenant que je suis rentré au CNRS, je continue à travailler sur cette thématique-là. Et donc, je vais à la fois vous présenter les deux choses, hein, c'est-à-dire ce qui est présenté dans ce qui est contenu dans mon livre et les prolongements de ce livre dans ces recherches actuelles, sachant que la principale différence, c'est le fait que je travaille plus tout seul. En thèse, on est seul. C'est souvent frustrant. La chance que j'ai, c'est d'avoir pu constituer une équipe avec des chercheurs, collègues, amis, ce qui me permet de faire des choses que je n'avais pas pu faire tant que j'étais en thèse. Donc, de multiplier les terrains, notamment. Et donc, je vais aussi vous présenter quelques... Parce que donc, ça fait plus d'un an maintenant que le projet que j'ai monté autour des réactions aux attentats de Paris en janvier-novembre 2015 a été lancé. Et donc, je vais aussi pouvoir vous présenter quelques-uns de ces... des résultats, des choses sur lesquelles on travaille en ce moment, des publications qui sont en cours dans le prolongement du livre. Donc, il y a ce livre, dont vous avez la couverture là, et puis il y a donc aussi ce projet de recherche qui s'intitule donc CREAT, pour la réaction sociale aux attentats, sociographie, archives et mémoire. Là, vous avez une capture d'écran du site internet sur la plateforme Hypothèse attachée à ce projet. Donc, il y a un projet que j'ai conçu en réaction à l'appel de Alain Fuchs, président du CNRS, à la suite des attentats du 13 novembre, hein, tout de suite après le 13 novembre, il fait un appel à ad hoc, c'est très rare, à financement de projets de recherche. Et donc, moi, je conçois un petit projet dans le prolongement de mon livre dont je viens de rendre le manuscrit à ce moment-là, hein, puisque comme l'a rappelé Pauline, c'est vrai que le livre, le manuscrit, je le rends au PUF le 13 octobre 2015 exactement. Et donc, il y a les attentats du 13 novembre derrière. Dans les semaines qui suivent, Alain Fuchs lance son appel. Donc, je conçois ce projet en réponse à cet appel. Et donc, se constitue une équipe de chercheurs qui sont pour la plupart à l'Institut des sciences sociales du politique. Moi, à l'époque, je suis ATER. Hein, je suis ATER dans un des établissements d'enseignement supérieur auquel est rattaché l'Institut des sciences sociales du politique, à savoir l'ENS Paris-Saclay, enfin à l'époque l'ENS Cachan, mais maintenant l'ENS Paris-Saclay. Et donc depuis, j'ai été recruté au CNRS et affecté en tant que chercheur titulaire à ce laboratoire, l'Institut des sciences sociales du politique. Et donc le point, si vous voulez, le point de continuité entre ce que j'ai fait dans ma thèse, donc ce que je défends dans mon livre, et ces recherches actuelles, c'est le programme d'une sociologie des attentats. Alors, juste quelques mots en préambule là-dessus, qu'est-ce que j'entends par sociologie des attentats ? La première chose, c'est que la sociologie des attentats, ce n'est pas une sociologie du terrorisme. On a notamment en sciences politiques tout plein de travaux sur le terrorisme comme moyen d'action, recours à la violence, à des fins politiques, donc qui implique une sociologie des acteurs terroristes, des réseaux terroristes, des financements, etc. Donc tout plein de travaux sur l'ETA, sur les réseaux islamistes, sur l'IRA, etc. Moi, je me revendique vraiment très peu connaisseur sur la question. Souvent, les journalistes cherchent à m'interroger sur la radicalisation, ce genre de choses. Je leur dis, vous savez, moi, ça m'intéresse parce que c'est afférent à mes objets de recherche, je lis des choses là-dessus, mais je n'ai pas enquêté directement là-dessus, et donc j'en sais pas beaucoup plus que un étudiant ou un citoyen informé qui aurait lu des livres de spécialistes de la question. Je ne suis pas un spécialiste du terrorisme. Bon. Moi, ce sur quoi je travaille, ce sont les réactions des sociétés aux attentats, ou les effets sociaux que produisent des attentats. Et encore là, il faut circonscrire, c'est-à-dire que je travaille plus particulièrement, ma thèse portait sur les réactions en Europe à des attentats islamistes ayant eu lieu en Occident, et se pose donc tout plein de questions sur l'extension, la généralisation des constats qu'on peut faire dans ce contexte-là. Dans quelle mesure ce qu'on observe depuis 2001 en Europe et plus largement en Occident vaut aussi pour d'autres sociétés non occidentales, peut valoir aussi pour des réactions des attentats plus anciens dans le passé, par exemple des attentats anarchistes en Europe au XIXe siècle. Ça, c'est typiquement des questions de recherche aujourd'hui. On ne se les posait pas avant, et à la lueur de ce qui nous arrive aujourd'hui, il y a des travaux en cours sur comment réagissaient les sociétés européennes aux attentats au XIXe siècle. A-t-on des matériaux équivalents à ceux sur lesquels on travaille aujourd'hui pour rendre compte des réactions en France, par exemple, aux attentats des années 90 à Saint-Michel, Port-Royal, etc. Bon. Donc ça, c'est vraiment ce que je défends, l'approche que je défends, une sociologie des attentats. Et donc, effectivement, comme le rappelait aussi Pauline, l'idée, c'est de procéder à un calme examen à froid de ces événements, de ces faits sociaux, de prendre les attentats comme des faits sociaux. Et alors que ce sont, lorsqu'on les vit, des moments d'effervescence sociale qui génèrent des phénomènes de polarisation, des opinions, et donc dans lesquels il est généralement très difficile de faire entendre un discours objectif, pondéré, scientifique. On l'a vu encore avec cette fameuse phrase de Manuel Valls disant que voilà, chercher à expliquer ce type d'événement, c'était déjà les excuser un peu. Bon. Là, c'est vraiment de procéder à une analyse qui permet de comprendre ce que produit ce genre d'effet, justement, essayer de comprendre d'où vient ces phénomènes d'effervescence sociale, ces phénomènes d'emballement, ces phénomènes de polarisation des opinions, à la fois les phénomènes de renforcement de la cohésion sociale et en même temps les phénomènes de division, d'augmentation des tensions que peuvent susciter en même temps ces phénomènes dans une société donnée, ces événements d'une société donnée. Et donc aussi pour cela, évidemment, autre axiome fort de cette sociologie des attentats, pardon, c'est de le faire empiriquement, d'avoir une démarche empiriquement fondée, à rebours de tous les commentateurs. Dans ces circonstances-là, vous n'êtes pas sans savoir que les journalistes sont très friands de commentateurs qui vont dire... donner leur analyse sur comment est-ce que la société réagit à tout ça, comment est-ce qu'elle encaisse le choc ou pas, ce qui va généralement aussi avec une sorte de généralisation du langage psychologique, le traumatisme, comment est-ce qu'on fait face au traumatisme, avec donc cette imposition du fait qu'il y a un traumatisme forcément, comment est-ce qu'on est résilient ou comment est-ce qu'on peut faire pour être davantage résilient, et qui donc sont souvent des discours très généralisants, qui ne sont pas empiriquement fondés, qui sont typiquement des discours de commentateurs, dont le sociologue lui-même peut rendre raison, en fait, montrer comment ces discours-là font sens dans une certaine configuration sociale qui se crée dans ces circonstances-là. Et donc là, ce que je revendique aussi, c'est une démarche qui donc prend du temps pour faire les choses de manière calme, pondérée, mais parce que aussi elles sont faites empiriquement, en mobilisant des matériaux qui doivent permettre de rendre compte de la pluralité, hein, parce que c'est ça l'enjeu, en fait, vous allez voir, la pluralité, en fait, des réponses que suscite ce genre d'événement dans des sociétés comme la nôtre, donc c'est-à-dire dans des sociétés occidentales pluralistes, où la solidarité, la cohésion sociale, si on en revient à Durkheim, hein, une sorte de béaba de la sociologie, ne va pas de soi. Hein. On n'est pas dans des sociétés à solidarité mécanique, mais dans des sociétés à solidarité organique, où donc la cohésion sociale est problématique, où il y a des risques d'anomie, et c'est précisément ça l'enjeu des attentats. Hein. C'est d'ailleurs pour ça, c'est ce que j'explique dans l'introduction de mon livre, que les attentats à l'aveugle apparaissent dans précisément ces sociétés qu'analyse Émile Durkheim, société où progresse la division du travail social, où la cohésion sociale ne va pas de soi, et où il y a un risque d'anomie. Le fait de, disons que ce type d'attentat, tel qu'on les connaît aujourd'hui, attentat de masse, à l'aveugle, n'ont de sens que dans ce contexte-là. Dans une société à solidarité mécanique, où la cohésion va de soi, si vous en prenez à une personne, vous en prenez forcément à tous. La réaction est mécanique. Tout le groupe fait front face à l'attaque. Dans une société à solidarité organique, où la cohésion est moins évidente, où l'individualisme progresse, ben justement, il y a un enjeu. C'est pas sûr. Et c'est le point de départ de mon livre, en fait. C'est, on s'en prend à des concitoyens, et est-ce que, ou pas, le reste de la société va se sentir solidaire de ces personnes-là? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont l'être ou pas? Qu'est-ce qui fait que certains vont l'être plus intensément que d'autres? Et c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est pour ça que, du coup, les attentats à l'aveugle apparaissent au XIXe siècle, dans les sociétés post-révolution industrielle, celles auquel Durkheim s'intéresse, et pas que lui d'ailleurs, hein, c'est aussi la société dans laquelle la société dans laquelle apparaissent les attentats à l'aveugle, anarchistes, en Europe, à la fin du XIXe siècle, est aussi la société dans laquelle apparaît la sociologie, tout simplement. Hein. Donc c'est ce que je rappelle, voilà, c'est le point de départ de mon livre, c'est cette concomitance-là, hein, et qui fait qu'à mon sens, comme effectivement le rappelait là encore Pauline, l'objet même de cette sociologie des attentats, en fait, amène à revenir à la question même de la sociologie. Qu'est-ce que le lien social? Qu'est-ce que la cohésion sociale? Qu'est-ce qui nous fait être solidaires les uns des autres? Qu'est-ce qui nous fait être sensibles au sort d'inconnus, mais qui appartiennent à la même société que nous? Et donc voilà, c'est ça l'idée. Et donc, pour ce faire, il faut mobiliser des matériaux empiriques. Le matériau principal que je mobilise dans ma thèse, alors, dans le cadre du projet REAT, il y a plusieurs enquêtes, j'y viendrai après, mais le matériau principal dans mon livre, et donc aussi dans le projet REAT, ce sont les centaines de milliers, les milliers de milliers, les millions, en fait, de messages que les individus peuvent adresser aux victimes dans ces circonstances-là, que des citoyens ordinaires, de simples individus, peuvent adresser aux victimes dans ces circonstances-là pour leur témoigner, justement, leur solidarité, leur soutien. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, après ce type d'événement, ça n'a pas toujours existé. Une des questions, c'est de savoir depuis quand ça existe. Se créent des mémoriaux de rue, des mémoriaux spontanés. Après les attentats, les gens spontanément ressentent le besoin. Alors spontanément, il faudrait réfléchir. Et il y a un chapitre de mon livre qui est consacré à ça. À qu'est-ce qu'il y a de spontané là-dedans? Bon. Mais bref, en tout cas, il y a des rassemblements de rue. Les gens manifestent, se rassemblent, viennent déposer des choses en place publique, et notamment donc des messages. Et puis donc, là, vous voyez, c'est une photo de la garde d'Atocha en 2004, après l'attentat du 11 mars. Cette gare, donc, qui correspond à l'épicentre de l'attentat, qui fait 191 morts, qui reste donc le pire attentat qui a été perpétré en Espagne, mais y compris en Europe, hein, après le 13 novembre, la gare, pendant 4 mois, les 4 mois qui suivent, elle reste comme ça, envahie de messages, de graffitis, alors à la fois à l'extérieur, comme vous le voyez là, comme à l'intérieur. Hein. Et donc, là, vous avez un gros plan, on voit d'un peu plus près, hein, donc à la fois des bougies qui sont déposées, des fleurs, et puis donc tout plein de graffitis, là on les voit pas très bien parce que le contraste est pas assez fort, mais des graffitis sur les murs, des feuilles qui sont collées, à la fois des avis de recherche, des messages de solidarité, des pancartes, tout plein de choses. C'est ça la matière première sur laquelle j'ai travaillé, et puis donc vous voyez typiquement là quelqu'un devant qui a à la fois un chariot des bagages, vient pour prendre un train, mais en même temps, voyant les autres messages, écrit le sien. Et il faut savoir, dans cette gare d'Atocha, bon, les messages comme ça sous forme papier, les graffitis ont été effacés au bout de 4 mois, mais un dispositif informatique a été mis en place qui est resté dans la gare pendant 3 ans, qui permettait aux gens passant par la gare de déposer encore, en souvenir des victimes, un message. Vous voyez là, encore un autre gros plan, des messages déposés au sol. Déjà une première idée pour ceux d'entre vous qui disent espagnol de ce qu'on peut trouver, là quelque chose d'assez classique. L'Équateur souffre avec toi, Espagne, un dessin d'enfant, il y a beaucoup de dessins d'enfants dans tout ça, bon, dans ce type de message-là. C'est donc l'une des premières matières sur laquelle j'ai travaillé, ça a été la principale matière sur laquelle j'ai travaillé pour réaliser ma thèse, avec cette idée, si vous voulez, qui était une sorte de pari au départ, hein, qui était que ces matériaux donc voilà, existent, sont pléthoriques, sont pas toujours archivés. Hein. Pour Madrid, ils le sont, parce que des chercheurs du CSIC, qui est l'équivalent du CNRS en Espagne, se mobilisent. C'est des anthropologues sociaux intéressés par les rituels de deuil, donc très vite ils se mobilisent pour faire des photos de tout ça, pour mettre en place un protocole d'archivage et une collecte donc, de ces messages-là au bout de 4 mois. Mais donc ce n'est pas toujours le cas, ça l'est de plus en plus souvent que ces documents-là soient archivés pour des recherches à venir. Donc voilà, en fait, j'ai d'abord commencé par travailler sur ce fonds-là. Cette équipe d'anthropologues sociaux du CSIC en Espagne ont constitué un projet qui s'est intitulé El Archivo del Duelo, donc l'archive du deuil. Ça, c'est la couverture du livre collectif qui est issu de leur projet de recherche qui a été financé sur le mode d'un projet ENR hein, pendant 4 ans en Espagne, l'équivalent d'un projet ENR. Et ça, c'est le livre donc, issu de leur travail collectif auquel j'ai contribué, paru en 2011. J'ai eu la chance, en fait, de pouvoir accompagner, c'est pour ça que c'est le point de départ de mon travail, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer la chercheuse qui dirigeait ce projet dès mon master, en fait, avant même de commencer ma thèse, donc en 2006, quand le projet lui-même commençait. Puis j'ai eu la chance aussi, au cours de ma thèse, d'obtenir un soutien de la Casa de Velázquez, donc l'école française de Madrid, pour passer 2 ans là-bas à Madrid, et donc 2 ans durant lesquels j'ai pu, de 2009 à 2011, sur la fin du projet, donc dans la période où, en fait, les documents avaient été archivés, où il s'agissait de les exploiter, de préparer ce livre notamment, j'ai eu cette chance de pouvoir du coup travailler avec eux quotidiennement, être intégré à l'équipe, et j'étais le seul chercheur étranger à pouvoir faire ça. Bon. Ça a donné lieu, vous voyez, ça c'est voilà, tous les documents récupérés dans les gares, une fois triés, nettoyés, etc., ça donne lieu à ça, ces cartons-là, différents formats, des classeurs pour les petits formats, des cartons pour les objets, etc. Et vous avez aujourd'hui l'équivalent, dans le cadre du projet REAT, on travaille avec un fonds quasiment équivalent aux archives de Paris. Après les attentats de janvier en 2015, il y a eu tout plein de messages comme ça, de mémoriaux populaires aussi, place de la République, dans la rue du siège de Charlie Hebdo. Tout ça n'a pas été collecté, ça s'est essentiellement perdu. Les archives de Paris n'ont pas réagi à ce moment-là, parce qu'il y avait un directeur intérimaire, que la mairie de Paris n'a pas vu l'intérêt de le faire, que moi-même, ça tient des choses comme ça, hein. J'étais enseignant au lycée, et j'étais à l'époque dans l'idée que je n'allais pas me remettre à travailler là-dessus. Bon. Et par contre, au moment du 13 novembre 2015, cette fois-ci, là, moi, donc, je suis à TER, je suis dans l'idée que je vais peut-être me remettre à travailler là-dessus, et comme ça n'a pas été fait en janvier, je sollicite très vite les archives de Paris et la mairie de Paris, ayant conscience qu'ils ont raté quelque chose en janvier, cette fois-ci, relaye ma demande. Donc je rencontre très vite le directeur des archives de Paris et donc une collecte s'organise. Et ça ne s'organise pas toujours. Hein. J'ai fait pareil après pour Nice, parce que maintenant que je me remets à travailler là-dessus, étant originaire des Alpes-Maritimes, j'étais à Nice le 14 juillet, j'ai tout de suite sollicité la mairie de Nice aussi. La mairie de Nice, elle, n'a pas collecté à ce moment-là. C'est des décisions de procéder à des collègues, c'est des choses très sensibles. Hein. On a peur de comment va réagir l'opinion publique, les riverains. Et donc, c'est des décisions politiques, hein, avant toute chose. Hein. Ça ne se serait pas fait à Paris si Anne Hidalgo n'avait pas dit elle-même « Oui, on va le faire cette fois-ci. Bon. » Et donc, au final, là, vous voyez... Ça ressemble un peu, c'est assez équivalent, hein, d'un côté Madrid, de l'autre Paris. En termes de documents, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose. À Madrid, il y a 8000 documents papier qui ont été collectés dans les gares, différentes gares, la gare d'Atocha principalement, mais aussi les autres gares qui ont été frappées en banlieue, gare del Pozo, gare de Santa Eugenia, et puis des documents numériques, des dizaines de milliers de messages numériques. À Paris, le cœur du fond, il y a d'autres choses aussi, mais le cœur du fond, c'est à peu près 8000 documents aussi qui ont été collectés sur les sites des attentats du 13 novembre, donc essentiellement au Bataclan. Bataclan, ça représente à soi seul, je vais vous dire une bêtise, enfin c'est plusieurs milliers de documents. Hein. Sur les 8000, il y en a plus de 2000 qui sont du Bataclan. Et puis, il y a les différentes terrasses aussi, la Belle Équipe, la Bonne Bière, etc., le comptoir Voltaire, le petit Cambodge, où là, il y a des centaines, plusieurs centaines de messages qui ont été récupérés. Bon. Donc ça, c'est évidemment un fonds, les archives de Paris, sur lesquelles je n'ai pas travaillé, dont il n'est pas question dans le livre, sur lequel je travaille en ce moment. Là, vraiment, c'est ce à quoi j'occupe mes journées quand je ne suis pas avec vous. Hein. Un jour comme aujourd'hui. Dans le cadre de mon livre, donc, les messages de Madrid, je les ai confrontés avec d'autres messages. Là, un autre fond, c'est celui des réactions aux attentats donc, du 7 juillet 2005. Vous avez, donc c'est à peu près équivalent aussi, hein, c'est 11 mètres de linéaire, donc une grande bibliothèque, grosso modo, avec à la fois, donc des messages comme ça, vous voyez, là c'est un exemple de message sur un poteau devant une gare de métro à Londres, pour vous donner un peu une idée des matériaux, quoi, de la matérialité des choses sur lesquelles j'ai travaillé, et des registres de condoléances comme ça, parce qu'à Londres, beaucoup de registres de condoléances ont été ouverts, vraiment, vous voyez, avec des feuilles blanches, des grosses feuilles canson, registres très épais, et qui ont été mis en place publique. à Trafalgar Square, où les gens s'étaient rassemblés comme ils l'ont fait, là, il y a encore une semaine, à nouveau, après l'attentat de Westminster. Et donc, vous avez comme ça plusieurs dizaines de registres de condoléances, à la fois venant de Londres, puis venant d'autres régions de Grande-Bretagne et venant d'autres pays aussi, qui ont été rassemblés aux archives de Londres. Et donc, j'ai échantillonné un peu ces registres de condoléances, les messages qui sont à l'intérieur, de manière à pouvoir confronter ça aux messages de Madrid. Et puis, donc, j'ai travaillé aussi sur les réactions au 11 septembre. Et là, par exemple, c'est un des fonds sur lesquels j'ai travaillé pour le 11 septembre, qui est un fonds que j'ai consulté, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est la bibliothèque du Mémorial de Caen. Parce que ça, c'est un fonds assez inédit, de courriers adressés par des Français aux victimes du 11 septembre, en réaction à un appel, parce qu'il y a aussi cette question-là, on pourra en parler, mais ces matériaux-là, pour pouvoir en rendre compte, il faut aussi comprendre d'où ils viennent. Donc des fois, ils sont, entre guillemets, là encore spontanés, des fois, ils sont suscités par des dispositifs. Quand dans une gare, vous mettez en place des dispositifs informatiques pour dire aux gens, vous pouvez laisser des messages, bah, évidemment, ça les incite à le faire. Et là, donc, après le 11 septembre, vous avez, dès le lendemain, le journal Ouest France, que vous connaissez, en partenariat avec la radio France Bleu et le Mémorial de Caen, qui lance un appel à message de solidarité avec les victimes américaines, qui s'intitule « Opération fraternellement », sur le mode de pourquoi est-ce que c'est Ouest France, le Mémorial de Caen, sur le mode de « Les Américains nous ont délivrés, on leur doit la liberté », solidarité historique via le débarquement, et désormais à nous de leur montrer que, dans le sens inverse, on est à leur côté maintenant que ce sont eux qui sont éprouvés par une autre forme de barbarie, qui n'est plus la barbarie nazie, mais la barbarie terroriste, islamiste. Bon. Et donc, en fait, le Mémorial de Caen a été complètement débordé. C'était au Mémorial de Caen que devaient être adressés les messages. Et il a été complètement débordé par ces courriers, parce qu'en fait, l'appel a été relayé bien plus largement par TF1, France 2, même le New York Times, etc. Donc, en fait, le gros des messages, des courriers qui ont été reçus là viennent de Normandie, mais il y en a aussi de toute la France, il y en a même des dom-toms, etc., de pays étrangers. Et ce fonds, du coup, comme le Mémorial de Caen n'avait pas su quoi en faire, ça s'était retrouvé dans un placard. C'est-à-dire qu'entre-temps, le directeur du Mémorial de Caen avait changé. Je vous raconte un peu aussi pour vous dire des fois à quoi tient une recherche. Le directeur du Mémorial de Caen, entre le moment où cette opération avait été lancée et où ces courriers avaient été reçus, et le moment où ces courriers sont revenus au Mémorial de Caen, parce qu'entre-temps, l'ambassade des États-Unis les avait reçus, ils avaient été adressés à l'ambassade des États-Unis, qui n'a pas su quoi en faire, l'ambassade des États-Unis en France, et qui a dit, bon, écoutez, nous, là, en ce moment, on a d'autres choses à gérer. Donc, ils les ont envoyés au Mémorial de Caen. Et entre-temps, donc, le directeur avait changé, et celui-ci a dit, je ne sais pas quoi faire de ça, donc c'est allé dans un placard. Et ça y est resté jusqu'en 2009 ou 2010. Parce que vous avez eu, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, une exposition sur le 11 septembre au Mémorial de Caen en 2008, où il n'y avait justement pas ces matériaux, parce que le directeur, à l'époque, n'était pas au courant qu'il y avait ça dans un placard, et c'est un jour l'archiviste qui a retrouvé ça. Et donc depuis, ces messages-là ont été transférés au Mémorial du 11 septembre à New York, qui a ouvert justement au même moment, en 2011, et donc le fonds a été transféré là-bas. Mais dans l'intervalle, moi j'ai pu travailler dessus, et donc là, c'est les matériaux bruts, ils n'avaient pas été indexés, rien, l'indexation elle a été faite par moi avec un stagiaire avant que les documents ne partent à New York. Et dernier fonds dont il est question dans mon livre, ce sont là des messages rédigés par des touristes, des visiteurs, à Ground Zero, entre 2005 et 2009. Parce que donc, désormais, depuis 2011, vous avez Ground Zero est quasiment entièrement reconstruite maintenant. Vous avez les immeubles, un nouveau centre commercial, un mémorial, un musée. Bon. Et donc, ça date de 2011. Moi, mon terrain à New York, je l'ai arrêté en 2009-2010. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas le mémorial. Par contre, étant donné le temps qu'il a fallu pour avoir le mémorial à New York, à Ground Zero, la principale association de victimes du 11 septembre avait pris l'initiative de créer un petit musée en marge du chantier. Tant que Ground Zero était encore un grand chantier en reconstruction, ils avaient créé un petit musée donc, qui s'appelle le 9/11 Tribute Center et qui se terminait par cette salle-là. Vous voyez, une salle où donc après, c'est vraiment un petit musée qui se termine par une salle en sous-sol, une sorte de crypte où les gens étaient invités, s'ils le voulaient, à raconter leur 11 septembre, enfin bref, à dire ce qu'ils avaient sur le cœur, parce qu'en fait, force est de constater que les gens ne font pas que raconter leur 11 septembre, des fois, en fait, ils adressent un message justement de condoléances, de solidarité, bon. Puis donc, vous voyez, là aussi, j'ai fait de l'ethnographie, du coup, dans une salle comme ça, pour comprendre aussi qu'est-ce qui fait que des gens écrivent d'autre part, enfin, vous voyez que certains messages sont exposés, donc évidemment, il y a une sélection qui est faite, lesquels on expose, lesquels on n'expose pas. Et puis, voilà, est-ce que le fait de lire des messages exposés suscite le fait ensuite de se mettre à écrire ou pas? Bon, là, je vais me concentrer dans l'exposé que je vais vous faire sur l'analyse de contenu, mais sachant qu'une autre partie de mon travail, de ma thèse, inclut aussi l'étude ethnographique de ces lieux de mémoire, de ces mémoriaux, qui sont les gens qui y viennent, qu'est-ce qu'ils y font, quels sont les usages de ces mémoriaux, de ces lieux de mémoire, de ces musées qui se créent, aussi bien à New York, donc, où j'ai travaillé, qu'à Madrid ou à Londres. Et que maintenant à Paris, parce que dans le cadre du projet REAT, on enquête aussi sur les commémorations, les mémoriaux, la place de la République, etc. Et donc j'ai toujours le projet, mais qui a été un peu retardé du coup, de publier un deuxième livre sur la dimension vraiment de la mise en mémoire des attentats, les commémorations, les mémoriaux, parce qu'il y a toute la troisième partie de ma thèse qui n'a pas encore été exploitée, donc je pensais faire un livre assez vite, mais là j'ai retardé les choses parce que précisément du coup je rajoute un bout de terrain sur le cas de la France, y compris, je vous parle de Paris, mais y compris Nice aussi, puisque à Nice la mémorialisation elle n'est pas simple non plus. Bon. Et donc voilà, dans ce musée, donc le 9/11 Tribute Center, vous aviez donc grosso modo un visiteur sur 10 qui laissait quelque chose. Et moi, dans la perspective qui était la mienne, hein, qui était de comprendre la spécificité de la réaction des Européens à un événement comme ça, du coup, je me suis intéressé à ces messages-là en allant particulièrement chercher les messages de touristes européens. Bon. De manière aussi à voir la temporalité, hein, parce que le musée, là, en question, est ouvert en 2005, donc on est 4 ans après le 11 septembre. Mais par contre, on est au même moment que Madrid et Londres. Donc ça m'intéressait de voir dans quelle mesure est-ce que dans les messages-là, les Européens parlaient ou pas de Madrid et Londres, etc. Bon. Et donc, le cœur de mon livre... Le cœur de mon livre, c'est une analyse statistique faite au moyen d'un logiciel d'analyse textuelle, donc c'est-à-dire à l'époque c'était Alcest, maintenant vous connaissez ça sous la version, sous Iramutech en fait, et d'un corpus numérisé de messages comme ça rédigés en réaction des attentats. Donc le corpus numérisé qui constitue vraiment la matrice de mon analyse, c'est des messages de réaction à l'attentat de Madrid. Et ensuite, l'analyse informatique, je l'ai aussi affinée en confrontant ces résultats à des messages manuscrits, comme cela, typiquement, hein, comme les courriers voilà, dont je vous parlais là, ou ceux qui ont été collectés là à New York. Donc ça, c'est le cœur du livre. Et puis, pour que vous compreniez aussi sa structure à ce livre en deux parties, ce que je n'avais pas imaginé faire au départ, mais qui explique aussi que ma thèse a duré plus longtemps que je l'imaginais, c'est que je me suis vite rendu compte en travaillant sur ces messages-là, que pour en rendre compte, il fallait faire pour mon propre compte quelque chose que je n'imaginais pas faire au départ, c'est-à-dire une analyse de la médiatisation des attentats. Parce que, en fait, quand on s'intéresse à ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire comment réagit une société à ce type d'événement, et plus particulièrement, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, cette problématique proprement sociologique qui consiste à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir solidaire des victimes ou pas, qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir concerné ou pas. La question très naïve que je pose, en fait, qui est une question qui peut paraître moralement choquante, hein, quand on est confronté à un attentat, apparaît vraiment aberrante, c'est qu'est-ce qui fait quand on n'est pas soi-même directement frappé, directement victime, qu'est-ce qui fait qu'on se sent pourtant quand même concerné, ému, touché, au point de vouloir, dans certaines circonstances, face à certaines injonctions à le faire aussi, face à certains dispositifs qui nous invitent à le faire, au point de rédiger, d'adresser un message aux victimes. D'aucuns vous diraient que ça va de soi. Hein, le discours, justement, politique, médiatique, c'est un attentat a lieu en France, en tant que citoyen français, tout bon citoyen doit se sentir concerné et doit l'exprimer, d'une manière ou d'une autre. Hein. Évidemment, cette posture très normative, c'est pas celle du sociologue. Moi, je cherche vraiment à comprendre qu'est-ce qui fait que, voilà, on se sent plus ou moins concerné. Et donc, je me suis rendu compte que pour comprendre ça, comprendre les réactions des individus qui sont pas directement impactés ou affectés par les attentats, qui ne sont pas directement victimes ou directement rescapés, ou qui ne sont pas des primo-intervenants sur les sites des attentats parce qu'ils sont policiers, médecins, etc. En fait, on ne pouvait pas faire l'économie d'une étude de leur médiatisation. Il y a tout plein de travaux sur la médiatisation des attentats sur lesquels j'ai travaillé en sciences de la communication, mais qui sont souvent qui se bornent à une problématique, si vous voulez, très infocom, c'est-à-dire les différences de ligne éditoriale entre deux journaux, entre deux chaînes de télé, entre deux pays. Bon, moi j'ai eu besoin de faire la synthèse de tout ça et puis même de retourner voir des archives pour mon propre compte, dans une perspective sociologique aussi, pour comprendre comment est-ce que les gens réagissaient aux attentats. Hein, le choix des termes, par exemple, hein, les termes qu'emploient certaines personnes, dans quelle mesure est-ce que ça vient de ce qu'ils entendent dans les médias ou pas, ou dans quelle mesure c'est en réaction à ce qu'ils entendent dans les médias. Parce qu'en fait, voilà, une sorte d'idée un peu simple, mais qui me semble bon de rappeler, c'est que finalement, ce à quoi réagissent les gens qui ne sont pas directement concernés, directement affectés par les attentats, qui ne sont pas sur les lieux, hein, c'est ce qu'ils en perçoivent au travers des médias. Hein. Si vous n'êtes pas vous-même à Paris le soir du 13 novembre, si vous n'êtes pas vous-même au Bataclan, en fait, ce qui fait que vous êtes ému, concerné depuis quand, c'est qu'on vous en parle à la télévision et dans les journaux. Et donc, selon ce qu'on vous dit sur ce qui se passe, selon les termes qu'on emploie, selon si on vous dit c'est une guerre, c'est une scène de guerre, c'est le chaos, ou pas, c'est juste une tuerie et pas une scène de guerre, selon les images qu'on vous montre aussi, bah, évidemment, votre réaction, vos émotions ne vont pas être les mêmes. Donc du coup, mon livre se structure de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a un premier temps, c'est ce qui nous arrive, et où je reviens sur toute la médiatisation des événements, les images qu'on montre et qu'on ne montre pas, sur les différences de ce point de vue-là entre les États-Unis et l'Europe pour le 11 septembre, mais aussi par exemple à Madrid et Londres, les discours qui sont tenus aussi sur les réactions, parce qu'il y a tout un discours très normatif, donc qui dans ce contexte-là est tenu par les politiques, et qui est relayé par les médias sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Hein. Et grosso modo, l'idée centrale que je ressors de cette première partie, c'est que ces discours politiques et médiatiques sont porteurs d'injonctions à se sentir concernés. Et que la principale injonction à se sentir concernée, généralement, elle s'appuie sur le sentiment de commune appartenance nationale. C'est-à-dire que quand un attentat a lieu à la rédaction de Charlie Hebdo, vous avez très rapidement le président de la République, d'autres personnes qui disent « ce n'est pas une attaque uniquement contre Charlie Hebdo et des journalistes », mais une attaque contre toute la France, on s'en prend à la République française, à ses valeurs, et une montée en généralité, comme dirait Boltanski, qui en elle-même est porteuse d'une injonction à se sentir concerné. En tant que bon citoyen français qui adhère à ses valeurs, on doit se sentir concerné par cette attaque, même si on n'est pas soi-même journaliste ou lecteur de Charlie Hebdo, etc. Bon. Et donc cette injonction à se sentir concerné, elle est relayée par les médias, elle est appuyée par des gestes rituels aussi, hein, les appels à des minutes de silence, les drapeaux mis en berne. Et donc, si on en reste à ça, une lecture très simple de la réaction de la société consiste à dire que, oui, évidemment, les gens sont émus, expriment leur solidarité, vont à des manifestations, parce que ce sont des bons Français, ce sont de bons citoyens français. Et ceux qui ne le font pas, donc, c'est que, justement, au contraire, ce sont des mauvais citoyens français, et ça va pas du tout, il faut les rééduquer, il faut leur expliquer, etc. Bon, ce qui est une démarche fondamentalement asociologique, vous en êtes bien conscient. Bon. Et donc, la première chose à faire, c'est d'identifier ces discours-là, et ensuite, du coup, sociologiquement, c'est d'aller voir autre chose, ces matériaux-là, auxquels on prête généralement pas beaucoup d'importance, hein. Tous les fonds sur lesquels j'ai travaillé, maintenant ça change un peu, mais à l'époque où je faisais ma thèse, à l'époque où mon livre est sorti, j'étais le seul à avoir travaillé dessus, c'était des fonds où d'ailleurs les gens qui les avaient savaient pas trop quoi en faire, le mémorial de Caen est très embêté avec ça, ils sont contents que je puisse en faire quelque chose et de pouvoir l'envoyer à New York ensuite, pareil, là, le Tribute Center, ils avaient ces cartons-là, c'était même pas trié, bon voilà. Donc c'est d'aller voir ce type de matériaux-là, et de voir vraiment, dans ces matériaux, qu'expriment les gens, voilà. Quand ils veulent témoigner leur solidarité avec des victimes, sur quoi est-ce qu'ils mettent l'accent? Quand l'attentat a lieu dans leur pays, est-ce qu'ils manifestent vraiment leur solidarité en tant qu'ils sont concitoyens du même pays? Est-ce qu'ils en appellent vraiment aux valeurs qu'incarne leur pays? Est-ce qu'on retrouve une sorte d'écho du discours politique? Et relayé par les médias? Ou est-ce qu'ils expriment autre chose? Donc, il s'agit de voir quels sont vraiment les ressorts affectifs finalement mis en jeu, exprimés, et quelle est la portée réelle des injonctions à se sentir concernées sur la base d'un sentiment de commune appartenance. Et donc, ce que l'analyse textuelle, textométrique, d'un corpus de 60 000 messages adressés aux victimes des attentats de Madrid m'a permis de mettre en lumière, c'est ça. Vous voyez, là, c'est vraiment un graphique issu du livre, du chapitre 6, qui est donc la représentation graphique. Une analyse factorielle de correspondance, hein, sur donc ces messages adressés aux victimes du 11 mars, et où donc grosso modo, surtout moi ce qui m'intéresse, avant même qu'on regarde les mots qui sont projetés, c'est les deux axes. Hein. On a deux axes qui correspondent chacun d'entre eux à 59% et à 41% de l'inertie du nuage de points, donc qui en fait épuise le nuage de points, et qui permettent d'opposer les messages selon si... Alors, l'axe principal, selon s'ils sont personnels ou impersonnels, c'est-à-dire que et donc ça m'a servi comme grille de lecture, hein, comprenez bien, pour ensuite aller explorer d'autres types de messages manuscrits. Et je l'ai aussi affiné j'ai aussi affiné ma grille en allant explorer ces messages-là. Mais donc, un grand principe d'opposition, c'est des messages très impersonnels, c'est-à-dire des slogans, des messages qui disent non au terrorisme, oui à la paix. Nous sommes tous avec vous. Donc, des messages impersonnels au sens où voilà, c'est souvent une phrase courte, ça peut être un slogan, où l'auteur du message s'efface derrière un nous, hein, nous sommes tous avec vous. Bon. Donc c'est de la solidarité mécanique, un peu là si vous voulez, au sens de Durkheim. Et puis des messages inversement très personnels, où les gens racontent souvent ce qu'ils ressentent en disant je, je suis tout cœur avec vous parce que... Et qui raconte des choses bien souvent. Bon, je schématise vraiment à l'extrême, hein, et sachant que des messages qui sont milieux et qui souvent articulent les deux. Mais donc en gros, c'est l'opposition entre d'un côté des messages très impersonnels et puis de l'autre, des messages qui disent déjà « je ». On a eu tout d'un coup, on a eu l'air de découvrir ça avec la formule « je suis Charlie » après les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Mais dans les courriers reçus par Mémorial de Caen, il y a déjà un bon tiers des messages qui sont des messages à la première personne du singulier, où les gens s'adressent aux victimes du 11 septembre et leur disent « voilà, je suis particulièrement concerné, je me sens américain parce que » et qui des fois, je me souviens que je crois que la lettre la plus longue que j'avais trouvée dans ce fond faisait 17 pages. 17 pages derrière pour expliquer pourquoi est-ce que moi, singulièrement, je me sens plus concerné que mon voisin. Ok, en tant que Français, on a été libéré par les Américains, oui, il y a ça, mais il y a aussi tout plein d'autres choses que je raconte. J'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, j'y connais un cousin, je suis fan de jazz. On raconte des choses qui paraissent anecdotiques. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il raconte ça? Et en fait, c'est précisément pour étayer un sentiment très personnel d'émotion, de rapport à l'événement. Et l'autre axe, donc, vous voyez, proche, lointain, traduit une plus ou moins grande proximité par rapport à l'attentat et à ses victimes. C'est-à-dire que là aussi, si je caricature, d'un côté, on a des messages très très indexés sur l'événement. Si ce sont des bombes dans un train, c'est des gens qui vont parler de ces bombes-là dans ces trains-là, parce que eux-mêmes, il se trouve que ces trains, ils les prennent tous les matins pour aller travailler, qu'ils auraient pu être à la place des victimes, etc. Et à l'autre extrême, ce sont des messages très généraux, qui parlent du terrorisme en général. Alors, qui, en réaction à l'attentat de Madrid, disent « non au terrorisme, oui à la paix », on pourrait avoir exactement le même message pour le 11 septembre, pour le 13 novembre, pour... Donc, il se trouve qu'en fait, ça traduit aussi des distances alors à la fois sociales et géographiques, c'est-à-dire que les gens qui sont à l'étranger, bien souvent, qui viennent de l'étranger, vont plus souvent réagir sur un mode lointain, en parlant du terrorisme en général, que ceux qui, alors une fois encore, distance géographique ou sociale, hein, que ceux qui habitent dans la ville frappée ou qui ont un mode de vie dans une autre ville qui les rapproche des personnes qui ont été visées. C'est-à-dire que quand vous prenez les transports en commun tous les matins à Paris ou à Berlin, vous vous sentez peut-être plus concerné par un attentat dans les transports en commun à Madrid qu'un Espagnol qui vit à la campagne et qui, lui, va travailler en voiture. De la même manière que quand vous avez le 13 novembre, les attentats dans une salle de concert, même si vous n'habitez pas à Paris, mais que vous vivez à Berlin, à Londres ou à Caen, vous sentez peut-être plus concerné parce que vous aussi, en fait, vous êtes habitué d'aller à des concerts, vous êtes musicien, etc. Et donc, vous réagissez plus comme étant proche de cet événement-là et pas sur le terrorisme en général. Bon. Et donc, selon ces deux axes-là, j'ai pu opposer trois grands modes de réaction, vous voyez, aux attentats. Trois grandes manières d'exprimer sa solidarité aux victimes. Il faut être bien précis là-dessus, parce qu'on n'épuise pas du tout avec ça les réactions d'une société à un attentat. Hein. Depuis, avec le projet Réal, je vous en parlerai rapidement après, on fait d'autres enquêtes qui permettent d'explorer d'autres modes de réaction aux attentats. En gros, on peut dire qu'il y a trois grands modes de réaction à un attentat. Il y a la solidarité avec les victimes, le fait de se sentir concerné, en empathie avec elles. C'est le mode de réaction, en gros, principal. Mais qui n'est pas aussi évident qu'on le pense. Hein. Grosso modo, le discours politique, médiatique, normatif consiste à dire que c'est ça qui prime et que ça prime parce qu'on est tous français ou tous européens ou tous occidentaux et que c'est normal et qu'il n'y a pas de recherche sociologique à faire là-dessus, grosso modo. Bon. Et là, ce que montre mon analyse, c'est que c'est en fait beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus ambivalent que ça. Mais je me suis d'abord concentré là-dessus dans ma thèse parce qu'on ne peut pas tout faire, qu'il faut construire son objet et que c'était ce qui me semblait être le plus important. Mais les deux autres modes qui existent et qui méritent d'être explorés aussi, c'est l'indifférence. Ça existe, les gens qui disent que eux, ça leur fait ni chaud ni froid. Voilà. Enfin, il y a d'autres trucs très tristes qui se passent dans le monde, ils ont par exemple un parent qui est en train de mourir du cancer et que ça les concerne plus que l'attentat du Bataclan et que donc ils sont indifférents par rapport à ça. C'est pas qu'ils sont pas en empathie, c'est pas qu'ils sont en empathie, enfin qu'ils sont plutôt solidaires des terroristes, qui trouvent que c'est bien fait. C'est juste que non, ça les concerne pas littéralement. Bon. Et puis un troisième mode de réaction évidemment, ce dont on nous a, passez-moi l'expression, un peu bassiné en janvier 2015, c'est les « je ne suis pas Charlie », c'est ceux dont on va vous dire qu'en fait, eux, et c'est le côté inverse, eux ils sont plutôt solidaires des terroristes, et donc voilà, sont ceux dont il faudrait arriver à les identifier, les réformer, etc. Bon. Et là aussi, évidemment, c'est beaucoup plus ambivalent et compliqué qu'on l'imagine aussi. C'est aussi le phénomène de polarisation et la prégnance des discours normatifs dans ces contextes-là qui aboutissent à ce genre d'essentialisation des réactions sur l'idée qu'il y aurait les gens forcément solidaires parce qu'ils sont concitoyens du même pays, et les gens forcément solidaires des terroristes dès lors qu'ils commencent à introduire une nuance dans le concert de cohésion sociale. Bon. Et donc, sur le mode de la réaction solidaire, donc, on voit déjà qu'il y a trois grandes manières d'exprimer sa solidarité avec les victimes. Les gens les plus proches et qui réagissent sur un mode impersonnel expriment en fait du deuil, comme s'ils étaient eux-mêmes en deuil. Hein. Donc vous voyez, avec des termes comme voilà, les larmes, parce qu'on pleure, votre âme, aujourd'hui, train, matin, c'est souvent des messages en fait de personnes qui disent voilà, moi je prends les trains tous les matins, et donc en fait voilà, ça aurait pu être moi, et donc je me sens en deuil comme si vraiment on avait tué des gens issus de ma famille. Bon. Des gens plus distants par rapport à l'événement, vous voyez, vont réagir soit sur le mode des souhaits d'un monde meilleur, soit sous le mode des condoléances aux victimes. C'est toujours des gens qui s'adressent aux victimes, mais qui, dans la condoléance, très important, ont franchi une frontière sociale. Là, on est dans un même nous. Les victimes et les gens qui s'adressent à elles s'estiment être dans le même nous qui est en deuil, la même communauté de deuil. Là, on a des gens qui estiment, qui vivent à distance, bien souvent, les messages de condoléances aux victimes sont des messages de gens qui disent « nous ». Nous adressons à vous, vous les victimes, nous sommes avec vous. Mais donc nous, on n'est pas directement victime, on n'est pas directement en deuil. Et donc on vous apporte tout notre soutien dans ce deuil que vous connaissez. Et donc souvent, ce sont des gens qui expliquent qu'ils n'habitent pas à Madrid, et qui donc adressent leurs condoléances aux victimes madrilènes depuis Barcelone, Tenerife, Paris, Berlin, etc. Et ensuite, les souhaits d'un monde meilleur, ce sont les messages à la fois les... Parce que donc, ce qui est distant eux aussi, hein, distant aussi par rapport à l'événement, on n'est pas dans ce « nous » dans lequel à la fois les personnes qui réagissent et les victimes seraient inclus. On est dans des gens qui sont distants par rapport à l'événement, qui n'ont pas l'impression que ça aurait pu être elles. Mais ce qui les distingue par rapport aux condoléances aux victimes, c'est que les condoléances aux victimes, souvent, sont des gens qui réagissent sur un mode personnel. C'est « moi, je vous adresse mon soutien » ou « moi et ma famille, on est de tout cœur avec vous ». Et là, on est vraiment dans des gens qui ont une réaction beaucoup plus impersonnelle, à un niveau très général. Donc, vous voyez, avec des mots comme « il n'est plus question des attentats, des trains », mais il est question de voilà, les races, la guerre, l'amour, l'humanité, la violence. Donc, avec vraiment des messages sur ce qui s'est passé là, renvoie à quelque chose de plus général, qui sont la violence, les guerres et les causes de ces phénomènes-là, donc les divisions entre races, entre religions dans le monde. Et donc, avec beaucoup d'exhortations hein, à un monde meilleur, pourvu que, vous voyez, la formule qui revient plus souvent, c'est « pourvu que, j'espère voilà, qu'on... » arriver à un monde en paix. Bon. À partir de cet espace des réactions, de la manière dont les réactions d'attentats sont formulées, j'en suis arrivé à schématiser ça, c'est-à-dire ce que j'appelle voilà, une typologie des modalités de participation au public des attentats. C'est-à-dire qu'en fait, en reprenant, vous voyez, donc les axes issus de l'analyse factorielle de correspondance des modalités discursives et des termes employés dans les messages adressés aux victimes, donc l'opposition entre personnel et impersonnel, entre proche et lointain, j'en suis venu en fait à faire une typologie hein, des quatre grandes manières de se sentir concerné par un attentat. Alors les gens qui sont affectés directement, qui sont très proches de l'événement et qui sont affectés personnellement, évidemment ce sont les victimes. Et c'est pour ça d'ailleurs que, je me lève un instant pour vous montrer, là vous n'avez rien dans cette case-là, proche, personnel, ça correspond à l'espace des victimes. Et comme là, on est sur des messages adressés aux victimes, il est bien normal qu'on n'ait pas de message dans cette partie du graphique, puisque les victimes ne s'écrivent pas à elles-mêmes. Quand vous avez un dispositif dans la gare d'Atocha invitant les gens qui passent par là à adresser un message aux victimes, les gens qui ont perdu un proche, un cousin, un frère qui passent par là ne s'écrivent pas à eux-mêmes un message. Donc c'est pour ça qu'on n'a rien là. Mais donc du coup, il ne faut pas les oublier. Les premières personnes concernées à un attentat, les premières personnes à y réagir, ce sont les victimes d'abord. Et ensuite, donc, celles qui réagissent sur le mode des condoléances, qui réagissent sur un mode personnel tout en étant à distance, hein, qui disent « nous, nous adressons à vous les victimes », constituent ce que j'appelle un public de personnes singulières. C'est là qu'on a le plus souvent donc, des messages qui disent « je suis madrilène, je suis américain, je suis New York ou je suis Charlie », et qui souvent, donc, derrière, je vous le disais, hein, détaillent pourquoi est-ce qu'elles sont elles-mêmes singulièrement concernées, et donc du coup, expriment des raisons personnelles, et qu'elles estiment vraiment n'appartenir qu'à elles de se sentir concernées. Et donc sur la base d'un sentiment de commune singularité, hein, ce qui est très important pour qu'on puisse avoir des réactions comme ça, c'est que les victimes elles-mêmes nous apparaissent comme singulières. Hein. Une des choses que j'avance dans mon livre, c'est que si on avait assez peu de réactions comme ça, de ce type-là, aux attentats en France dans les années 90, par exemple, c'est aussi parce qu'on avait peu d'éléments d'informations biographiques sur qui étaient les victimes. On n'avait pas, comme on a maintenant depuis le 11 septembre dans la presse occidentale, des portraits de victimes qui nous montrent leurs photos, qui nous disent leur nom, leur prénom, qui elles sont, ce qu'elles font dans la vie. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont beaucoup amplifié ce phénomène-là. Bon. Ça pose tout plein de cas de conscience d'ailleurs aux journalistes parce qu'ils passent un temps fou à faire ça. Quand on est dans un contexte comme celui actuel où il y a une répétition des attentats, ils n'arrêtent pas de faire des portraits de victimes, c'est lourd aussi pour eux. Bon. Et donc c'est aussi, une des choses que j'avance dans mon livre, c'est aussi parce que les victimes nous apparaissent comme étant singulières, qu'on peut avoir en retour des... Globalement, ça accentue le sentiment de concernement dans la société, et ça accentue un sentiment de concernement justement sur un mode personnel, de gens qui en retour s'adressent aux victimes, et qui d'ailleurs bien souvent expriment qu'elles disent qu'elles se sont senties particulièrement concernées par le portrait de telle ou telle victime. Hein. C'est-à-dire que les lettres commencent souvent par une formule du type « je ne vous connaissais pas, mais j'ai été particulièrement touché par l'histoire d'un tel, quand vous apprenez que... tel homme, jeune père de famille, est mort 3 jours après la naissance de son deuxième fils, par exemple, et que vous êtes vous-même un trentenaire père de famille, bah, ça vous touche plus que si vous ne saviez pas qu'il y avait quelqu'un comme ça, et vous dites, voilà, j'aurais pu être à sa place, on imagine ce que vit sa femme, son enfant, etc. Et donc, ça favorise ce type de réaction-là. Et ensuite, donc, dans la colonne impersonnelle, vous avez deux grandes manières de réagir selon si c'est... donc, les réactions sur un mode impersonnel sont... comprenez-le bien, hein, toujours des réactions qui mettent, elles, l'accent sur un « nous ». Mais sauf que donc, il y a tout plein de sens du « nous » qui sont mis en jeu par ces réactions aux attentats. Il n'y en a pas qu'un seul et unique qui serait le registre « le nous national ». Ce que j'affirme aussi dans le livre sur la base des matériaux que j'ai analysés, c'est que pour les réactions aux attentats de Madrid et Londres, le « nous national », en fait, est moins important que le « nous urbain ». Le « nous » à l'échelle de Madrid et Londres est plus présent que le « nous » à l'échelle de la Grande-Bretagne ou de l'Espagne. Et je ne vous parle même pas du « nous » européen. Le cadrage médiatique dans la presse française après l'attentat du 11 mars 2004, c'est « nous sommes tous concernés en tant qu'Européens ». Dans 60 000 messages numérisés de réaction à l'attentat de Madrid, vous n'avez même pas 50 messages qui disent « Europe » ou « Européens ». Bon. Ce qui revient le plus, c'est « le monde » et c'est « Madrid ». Et donc, en fait, il y a différents types de « nous » qui sont engagés, c'est-à-dire que, de manière, je dirais, assez aréflexive, hein, quand les gens ressentent le besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent aux victimes, certains vont spontanément dire qu'ils se sentent concernés en tant qu'ils sont madrilènes, en tant qu'ils connaissent la ville de Madrid, en tant qu'ils habitent dans un de ses quartiers, plutôt qu'en tant qu'espagnols. Bon. Et souvent, ce qu'on observe, du coup, c'est que des gens qui vivent à l'étranger, c'est très prégnant pour la réaction d'attentats de Londres en particulier, la formulation d'un message rédigé par un Britannique qui vivrait dans la campagne, dans le Yorkshire par exemple, est beaucoup plus proche de la formulation d'un message d'un étranger qui vivrait en Espagne ou en Allemagne que de la formulation d'un londonien. Donc il y a vraiment une ligne de clivage là qui passe entre les gens qui sont de la ville frappée plutôt qu'entre les gens qui sont ou pas du pays frappé. Bon. Et donc, on a d'un côté donc, les réactions en tant que compagnons ou concitoyens, sur la base, donc, non pas d'un sentiment de commune singularité, mais d'un sentiment de commune appartenance, qui peut être un sentiment de commune appartenance nationale, mais qui n'est pas le seul. Hein. Il y a un sentiment de commune appartenance donc urbaine aussi. Il y a ce qui n'est pas rien non plus, un sentiment de commune appartenance sociale, hein, très présent dans les réactions d'attentats de Madrid, à savoir le fait d'être un travailleur qui prend les transports en commun tous les matins et qui fait qu'à ce titre-là, on aurait tout à fait pu être à la place des victimes, et avec une ligne de clivage qui passe de ce point de vue-là, donc non pas entre les Espagnols et les étrangers, mais entre ceux qui prennent les transports en commun le matin pour aller travailler ou pour aller à l'université, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants dans les trains du 11 mars 2004, et ceux qui, eux, vont au travail en voiture, et notamment l'opposition entre les classes populaires et les élites, qui, elles, ne prennent pas les trains et qui décident les guerres, parce que les Madrilènes, en 2004, considèrent aussi que s'ils sont frappés, c'est en large partie à cause de la guerre en Irak, du fait que l'Espagne s'est mêlée de la guerre en Irak, et donc il y a cette ligne de réaction très forte hein, entre voilà, nous, le peuple, qui prenons les transports en commun, c'est à nous qu'on s'en prend, et c'est à ce titre-là qu'on est concerné, tandis que les élites, qui elles ont leur voiture avec chauffeur, n'ont pas à pleurer les leurs dans ces attentats. Bon. Donc sentiment de commune appartenance fondée, vous voyez, sur une... commune appartenance sociale, hein, qui peut être soit fondée, comme dans le cas présent, sur une sorte de communauté de conditions, hein, la condition de travailleur qui prend les transports en commun tous les matins, soit sur quelque chose de plus tangible, de moins évanescent, hein, qui est moins lié à l'événement, qui est une commune appartenance professionnelle, par exemple. Hein. Les réactions spécifiques, par exemple, de policiers ou de pompiers au 11 septembre, parce qu'il y a beaucoup de pompiers et de policiers qui sont morts dans le 11 septembre, et donc un Français pompier va adresser un message aux victimes du 11 septembre en tant qu'il est pompier. Bon. Comme vous avez, après l'attentat du marathon de Boston, parce que j'ai aussi travaillé sur des fonds depuis un peu... un peu comme ça ponctuelles sur d'autres cas. Les gens principalement concernés par l'attentat du marathon de Boston en 2013, qui fait quand même pas beaucoup de morts, ce sont des gens qui sont marathoniens. Alors on s'en prend à un marathon, c'est la première fois, et donc la seule minute de silence qui a lieu par ailleurs en Europe, c'est la semaine suivante au marathon de Londres. Voilà. On fait pas de minute de silence comme on l'a fait après le 11 septembre en France, mais on en fait une à Londres au départ du marathon. Bon. Et de la même manière que vous avez, après le 13 novembre, des réactions sur le mode de la grande famille de la musique, hein, par exemple. Et puis enfin, donc ne pas oublier, toujours sur un mode impersonnel, mais le plus à distance, les réactions en tant qu'êtres humains ou en tant que citoyens du monde. Hein, les gens qui considèrent que l'échelle pertinente de réaction, c'est l'échelle de la commune humanité. Et donc ils souvent peuvent aussi, évidemment, hein, des gens qui sont madrilènes, qui sont espagnols, vont réagir en tant qu'être humain, mettre l'accent là-dessus. J'ai une photo, je ne vous l'ai pas mise là, j'aurais pu d'ailleurs, prise devant le Bataclan le week-end après l'attentat, quelqu'un qui avait déposé un message disant « je suis un être humain ». Voilà. Je suis un être humain, alors pas mal de choses qu'on peut dire de ce message-là. Déjà, il y a le « je suis un être humain », ça peut renvoyer au fait que les terroristes, eux, ne le sont pas, que ce sont des barbares, bon bref. Mais en tout cas, voilà, c'est écrit en français, on peut faire l'hypothèse que c'est un Parisien qui a déposé ça là, parce que c'est 24 heures après l'attentat, mais en même temps, ce qui est écrit, c'est « je suis un être humain », donc l'accent est mis là-dessus. Et donc, il y a aussi délibérément la volonté chez certains de mettre l'accent sur la dimension mondiale de l'événement et ou le fait qu'elle met en jeu la commune humanité. Donc ça, voilà, c'est en gros la grille d'analyse qui constitue la matrice de mon livre, et en particulier la deuxième partie, que je développe ensuite. Chacun des chapitres de mon livre développe les différents sens du « nous », notamment aussi les valeurs, là j'en ai pas parlé, mais derrière chaque sens du « nous », il y a des valeurs particulières qui sont invoquées. Les injonctions au concernement, après chacun des attentats dont je vous parle là, mettent toujours l'accent, le discours politique médiatique, sur la liberté, la démocratie. Hein, les attentats sont des attaques contre la liberté, la démocratie. Ce qui systématiquement revient le plus dans les messages de citoyens, c'est « peace and love ». En français ou en espagnol, paix et amour, mais les valeurs de paix et amour sont beaucoup plus invoquées dans les réactions de citoyens ordinaires que ne le sont la liberté ou la démocratie. La démocratie presque jamais présente dans ces messages-là. Bon. On voit bien qu'il y a un hiatus, d'autant plus que les messages qui mettent l'accent sur la paix et l'amour, qui renvoient aussi à un fond religieux, etc., enfin, il y a une analyse à faire là-dessus, c'est quelque chose dont on entend finalement assez peu parler dans les discours médiatiques et politiques dans ces circonstances-là. Bon. Donc voilà, le reste de mon livre consiste à creuser ces différents modes de réaction aux attentats. Et les recherches qui sont menées donc, actuellement dans le cadre du projet REACT, là je vais vous présenter ça rapidement pour que vous compreniez aussi du coup les prolongements. Il y a tout plein de questions en fait qui s'ouvrent à partir de cette grille-là, hein, c'est... Entre autres questions, c'est est-ce qu'on peut appliquer cette grille d'analyse à des attentats plus anciens, sur des matériaux, des courriers adressés en réaction des attentats dans les années 90, les années 70, est-ce que ça marche dans d'autres sociétés que les sociétés occidentales? Est-ce que, et typiquement dans le cas du 13 novembre, une des questions de départ aussi c'était est-ce que il n'y aurait pas cette fois-ci, pour les attentats qui ont eu lieu en France, et notamment parce que il y a un phénomène de répétition avec le 13 novembre après janvier 2015, est-ce que cette fois-ci, la commune d'appartenance nationale ne serait pas plus présente quand même? Est-ce qu'il n'y aurait pas plus le registre nationaliste, la France, le bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité, que on avait pu le voir, que je n'avais pu le voir dans les réactions de Madrid et Londres? La question de la temporalité aussi, vous voyez que là je vous présente quelque chose qui est très atemporel, ça tient au fait que les matériaux sur lesquels j'ai travaillé sont des matériaux qui ont été récoltés pardon, en une seule fois, hein, et on n'a pas la datation précise. Bon. C'est pour ça que là, les archives de Paris, avec qui j'ai donc travaillé dès le début, immédiatement après le 13 novembre, a procédé à des collectes en plusieurs vagues. Hein. Ils ont collecté sur les lieux des attentats à plusieurs reprises, trois semaines après les attentats, donc début décembre, puis après Noël, puis encore en février. Donc là, une des questions, c'est est-ce que l'articulation entre ces différents modes... Déjà, est-ce qu'on retrouve ces modes de réaction? Est-ce que certains sont plus prégnants que d'autres dans le cas du 13 novembre? Et puis, est-ce que ça évolue dans le temps? Voilà, c'est partie des questions qu'on explore en ce moment. Sachant donc que... dans le cas du projet REACT, là, vous voyez, c'est comme ça, typiquement, des messages qui ont été donc recueillis par les archives de Paris, nettoyés, et là, qui sont exposés, parce que faits dont on peut discuter aussi, dans une perspective mémorielle, c'est intéressant, faits rares, uniques, pour le coup, les archives de Paris ont fait une exposition de ces matériaux-là, de ces documents, très rapidement, hein, même pas un an après le 13 novembre. Ça, cette exposition-là, c'était pour les Journées du patrimoine, en septembre 2016. Bon. À Madrid, les matériaux qui ont été collectés ont été numérisés, ils auraient dû être mis en ligne, ils n'ont jamais été, parce qu'ils considéraient qu'ils avaient peur des récupérations qui pourraient, l'utilisation qui pourrait en être faite, etc. Et il a fallu attendre, donc vous avez vu déjà 2011 pour qu'il y ait un livre, 2011, donc 7 ans après l'attentat, et 10 ans, plus de 10 ans pour qu'il y ait une exposition. Exposition au Musée d'Anthropologie Nationale, c'est pas anodin non plus, c'est intéressant, l'exposition a eu lieu au Musée d'Anthropologie Nationale en 2016, donc 12 ans après l'attentat. Bon. Là, à Paris, il y a eu un livre de facsimilé très rapidement, qui est sorti là au moment du premier anniversaire des attentats, qui s'intitule « Je suis Paris », et puis il y a eu une exposition dès septembre, et tout a été mis en ligne depuis même pas un mois, là, enfin tout. Pas exactement tout. Hein. Les 16 messages qui incitent à la haine raciale et tous ceux où on peut identifier des personnes à cause des lois sur les données personnelles ne sont pas en libre accès, ils sont accessibles que sur dérogation et donc n'ont pas été mis en ligne sur Internet. Mais si vous allez sur le site Internet des Archives de Paris, vous verrez que 95% des matériaux collectés sont désormais consultables en ligne. Et donc, là, typiquement, ces matériaux-là, ils sont en ligne. Résister, penser, l'amour vaincra, il n'y a pas d'identité. C'est pour ça aussi qu'ils ont été sélectionnés pour être exposés. C'est parce qu'il n'y a pas d'incitation à la haine raciale, il n'y a pas de photos de victimes, par exemple. Et donc, dans le cadre du projet REAT, on fait plusieurs choses, je vous le disais. Première chose, c'est retravailler sur ces matériaux-là. Je le fais moi avec une équipe d'étudiants, je ne le fais pas tout seul. Autre chose qu'on fait, c'est des enquêtes ethnographiques, beaucoup, depuis un an, dans les quartiers frappés. Donc, on a ethnographié les mémoriaux tant qu'ils étaient en place. Parce que le problème de l'archivage aussi, c'est que ça démonte complètement les mémoriaux. On ne sait plus quel message est à côté de quel message. On perd les objets, on perd beaucoup de choses. Donc, on a fait beaucoup d'observations in situ pour avoir des éléments sur qui dépose des choses, qui vient là, qui observe, qui réagit. Avoir des éléments sur les messages qui disparaissent aussi, hein, les messages qui ne correspondent pas au sens commun de ce qui doit être dit dans ce genre d'espace-là, les messages par exemple racistes ou qui incitent à la haine raciale, s'il n'y en a que 16 dans le fond des archives de Paris, c'est aussi parce que en fait, la durée d'existence de ce type de message, ce type de mémoriaux-là, est très réduite. Hein. Quelqu'un voit ça, très vite va l'arracher, va le raturer. Bon. Donc on a fait beaucoup d'observations ethnographiques Place de la République, autour du Bataclan, dans les quartiers frappés. On a fait aussi, pour saisir d'autres modes de réaction d'attentat, dans une ville de banlieue, la ville de Grigny, une histoire un peu particulière, une enquête que je fais moi avec Fabien Truong, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui est sociologue de la ville, de la jeunesse, des quartiers, de relégation urbaine. Et on travaille donc tous les deux sur la ville de Grigny pour des raisons un peu fortuites, c'est-à-dire qu'au départ, il s'agissait de travailler sur une mobilisation qui a eu lieu à Grigny après l'attentat de Charlie Hebdo, parce que Amédi Coulibaly est originaire de Grigny et que du coup, à l'époque, il y a eu tout un discours médiatique de stigmatisation de Grigny comme étant un repère de terroristes, qui a généré un mouvement citoyen en réaction à ça. Ça a accentué, si vous voulez, chez beaucoup de citoyens, la manifestation publique de la solidarité avec les victimes, justement sur le mode de « non, nous, on n'est pas que des terroristes », etc. Bon. Donc au début, on a voulu travailler là-dessus. Et il se trouve que notre terrain a commencé le 13 novembre 2015. On était à Grigny le 13 novembre 2015 au soir. Bon. Et donc, ça a un peu lié la suite de l'enquête, parce que du coup, on a vécu les réactions au 13 novembre 2015 à Grigny. Et donc, voilà. Et depuis, on continue à travailler là-dessus. C'est un des terrains du projet REAT. Et donc, enquête ethnographique, y compris aussi sur les commémorations. Hein, ça fait plus d'un an et on n'a pas fini les cérémonies commémoratives, les mémoriaux, on travaille dessus aussi. Et enfin, les réactions sur les réseaux sociaux. Parce que quand je vous disais que les moments d'attentat sont des moments d'effervescence sociale, où les gens cherchent à exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, ils se saisissent de tout ce qu'ils peuvent dans ces circonstances-là, hein, donc ils viennent déposer quand ils peuvent des messages sur les lieux, quand ils habitent à proximité ou quand ils y passent. Des fois aussi, ils adressent par courrier postal, ça c'est un peu moins maintenant, mais la Garde Atocha, par exemple, a reçu des milliers de courriers adressés juste à Garde Atocha, pour les victimes du 11 mars, Garde Atocha, ils en ont reçu du monde entier. Bon. Et quand des journaux lancent un appel, comme le journal Ouest France, pareil, ça fait boule de neige. Et même quand les journaux ne font pas d'appel, ils reçoivent aussi des messages adressés aux victimes. Télérama, Le Monde, tous les journaux après le 11 septembre en France ont reçu trois fois plus de courriers que d'habitude. Et pas que des courriers pour réagir aux médias, pour dire aussi que les gens, pour exprimer leur solidarité avec les victimes. Et puis les ambassades, les forums internet donc à l'époque, et donc désormais les réseaux sociaux. En 2001, en 2004, en 2005, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, il est très clair que les gens qui sont sur les réseaux sociaux se saisissent d'abord de leur compte Facebook ou de leur compte Twitter pour dire ce qu'ils ont sur leur cœur. Joachim Ronsin, après Charlie Hebdo, qui s'est pas écoulé une demi-heure, qui publie « Je suis Charlie » sur Twitter, et ça génère l'effet que ça a généré. Donc, grâce à la loi qu'on a en France du dépôt légal du web, les tweets en particulier, Facebook c'est plus compliqué, mais les tweets sont archivés par la BNF et par l'INA, et donc dans le cadre du projet REAT, on travaille aussi sur les corpus de tweets archivés dans les moments de réaction aux attentats par l'INA. Et je vous en montrerai deux petits résultats pour finir. Et donc là, vraiment, en guise d'ouverture, je vous montre des documents issus du corpus de messages collectés par les archives de Paris. Donc je vous disais, une des premières questions Là, en fait, je refais avec un groupe d'étudiants le codage que j'avais pu faire sur les messages au mémorial de Caen, par exemple. Les courriers du mémorial de Caen, ils n'ont pas été numérisés. Donc, c'est moi qui ai fait un codage, comme a pu le faire Boltanski, par exemple, avec ses lettres de dénonciation adressées au Monde. Vous prenez les courriers, vous les lisez, puis avec une grille, vous codez le contenu, tout bêtement. Et donc, j'avais fait ça pour les courriers adressés aux victimes du 11 septembre récoltés par mémorial de Caen. Et là, on fait la même chose pour les courriers, pour les hommages aux victimes, parce que c'est comme ça que les archives les appellent, même si on peut en discuter. Vous allez voir qu'il y a des messages qui ne sont pas vraiment des hommages aux victimes, mais bon. Et donc on code aussi ça. Et l'une des premières questions, donc, qui préside à ce codage, c'est est-ce que le nous national est plus présent ou pas dans les réactions d'attentats du 13 novembre qu'il n'a pu l'être dans les réactions d'attentats de Madrid et Londres. Donc on a effectivement des messages comme ça, vous voyez, avec un drapeau bleu, blanc, rouge, écrit voilà, le symbole de Paris, Paris, lumière du monde, puis à la fin, vous voyez, Paris, vive la France, enfin vive Paris, vive la France et ses valeurs, liberté, fraternité, égalité. Vous voyez ? Typique d'une réaction sur un mode nationaliste et qui met l'accent en même temps sur les valeurs républicaines. Vous avez aussi des messages tout simples, vous voyez, quand je vous disais message impersonnel, un simple slogan, il n'y a rien de personnel là-dedans, et puis ça met l'accent sur un nous qui est le nous national, vive la France. La France est un beau pays, elle restera debout avec les Français qui l'aiment. Je suis la France, bon, et puis un bleu, blanc, rouge. Enfin bon, après, on peut discuter de chaque, mais c'est simplement pour donner différents exemples là de messages impersonnels, et même si celui-là l'est déjà un peu moins, et qui mettent l'accent essentiellement sur le nous français. Mais sauf que du coup, une des hypothèses qu'on creuse en ce moment, c'est est-ce que ce mode de réaction ne serait pas particulièrement un mode de réaction des enfants ? Quand vous commencez à regarder le corpus où il y a beaucoup de dessins d'enfants, on se rend compte quand même que ce mode de réaction, c'est très souvent, il va très souvent avec des dessins d'enfants. Donc là, on cherche à quantifier très précisément combien de fois est-ce qu'on a des drapeaux bleu, blanc, rouge et liberté, égalité, fraternité, combien de fois c'est imputable à un dessin d'enfant, sachant qu'en fait, tout simplement, dans ces circonstances-là, très souvent, les maîtres d'école font faire un dessin à leurs enfants ou les parents, et c'est de l'éducation civique, grosso modo. Et donc il y a aussi une injonction très claire, hein, dessine-moi un drapeau, la France est attaquée, exprime-le à ta manière, etc. Ce qui porte aussi à réagir sur ce mode-là, bien souvent, c'est les étrangers qui expriment leur solidarité au nom de leur pays avec le pays frappé. Donc là, vous voyez des Russes solidaires avec la France, là, des Britanniques, pareil, qui expliquent bien, donc ils écrivent en anglais, et puis ils expliquent bien qu'ils viennent des pays de Galles et d'Angleterre, et qui donc terminent en disant « vive la France ». Là, quelqu'un qui dit qu'il est marocain et qu'il aime la France, et donc le Maroc est avec la France, ça c'est des choses qu'on retrouve dans... C'est exactement la même chose que ce que j'avais pu voir à Madrid ou à Londres avant, c'est assez classique. Bon. Donc pour le nous national, là, un autre type de message, où le nous qui apparaît est essentiellement le nous parisien, il n'y a plus de bleu, blanc, rouge, il y a un symbole de deuil, il y a le symbole Peace and Love, Pray for Paris, voilà. Il y a écrit Pray for Paris, et puis il y a le temps de repenser musical. Bon. Donc on a aussi un nous musical qui apparaît, hein. Ça c'est intéressant aussi, les gens qui réagissent essentiellement sur le Bataclan. Les messages recueillis au Bataclan sont très différents de ceux qui ont été recueillis ailleurs. Il y a une spécificité du Bataclan, ce qui se traduit d'ailleurs par le fait que bien souvent maintenant, on tend à parler des attentats du Bataclan plutôt que du 13 novembre. Hein. Comme on parle aussi bien souvent en France des attentats de New York plutôt que du 11 septembre. Bon, ça, c'est des choses en soi sociologiquement intéressantes. Vous voyez, bon, j'aime bien celui-là, parce que voilà, le ici c'est Paris, dessiné par un enfant, on comprend bien, et on, bon, avec la référence au PSG, voilà, ici c'est Paris, et le symbole, bon, y a un truc tricolore, mais c'est pas colorié, bon, enfin voilà. Un autre type, voilà, de message où, bon, il y a un bleu, blanc, rouge, mais on sait pas trop, mais en tout cas, vous voyez, même pas peur, je suis Paris, Paris, je t'aime, ce qui prime avant tout, c'est, voilà, l'échelle des concerts, des terrasses, la ville de Paris, plus que l'échelle nationale, bon. Et puis des gens qui signent donc leur message, hein. Ça j'en ai pas parlé, mais dans mon livre il y a toute une partie qui est consacrée aux modalités de signature. Il y a des gens qui voilà, signent une fois encore le message en tant que citoyen du monde, alors qu'en fait ils sont espagnols, madrilènes, mais ils choisissent de signer un citoyen du monde. Et d'autres qui choisissent de signer un parisien, d'autres qui choisissent de signer un français parmi d'autres. Et puis d'autres qui signent Jérôme Truc, habitant dans tel quartier, usager régulier de telle ligne de métro, etc. Bon, en singularisant beaucoup leur signature. Donc voilà, des gens qui réagissent en tant que parisienne, ou en tant que vous voyez parisienne et maman. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas vu dans les réactions de Madrid et Londres. Et là, dont on a fait une ligne d'investigation pour le 13 novembre, le nombre de gens qui réagissent en tant que parents ou en tant que maman. Donc sur le mode, on sait pas, on s'en est pas pris à des gens de manière indiscriminée, on s'en est pris à des jeunes. Et donc ces jeunes en terrasse de café, dans les salles de concert, ça aurait pu être nos jeunes. Et donc je me sens concerné en tant que bah, moi j'ai des enfants du même âge et voilà. Et puis je vous disais donc des réactions sur le mode d'un nous. Alors là on est à la frontière entre le nous parisien et le nous social. Hein. Nous sommes le peuple. Ce qui fait pas mal écho à nous sommes le peuple de Paris, donc ce qui fait pas mal écho à des choses que j'avais pu lire déjà après Madrid. Des réactions à l'échelle du quartier aussi, hein, les gens qui réagissent en tant que. en tant qu'habitué des cafés, habitant des quartiers, etc. Vous voyez, nous, habitants de ce quartier, ça c'est très frappant, le « nous » en majuscule, « nous, habitants de ce quartier bon. ». Et puis voilà, des gens qui signent non plus en tant que parisienne, mais en tant qu'une habituée. Marie, une voisine, voilà. De la part d'un Australien parisien depuis 20 ans, et votre voisin. Et puis, à nos voisins du quartier, morts dans l'attentat du 13 novembre, nous ne vous oublierons jamais, voilà. Et puis donc, dernier nous, le nous à l'échelle, l'avant-dernier. Le nous en tant que le nous musical, hein, les nombres de gens qui ont déposé devant le Bataclan un billet de concert sur le mode de la communauté de conditions. Hein. J'y étais il y a peu de temps, où je devais y aller, là, je crois qu'il y a un billet pour un concert le lendemain, je crois, non, il n'est pas là, mais... Il y a quelqu'un qui avait un billet pour le concert du 14 novembre et qui vient le déposer. Bon. Et puis alors vous voyez aussi les réactions ambivalentes que ça peut susciter. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui met « nous n'irons plus jamais ». Rendre hommage aux victimes sur ce mode-là, c'est-à-dire qu'on n'ira plus jamais au Bataclan. Quelqu'un d'autre qui dit au contraire « je reviendrai écouter de la musique au Bataclan comme je l'ai fait depuis 30 ans » sur le mode de « on n'a pas peur, pour vous rendre hommage, on reviendra bon. ». Disons que là, le niveau d'analyse sociologique ne préjuge pas de la réaction aussi à un niveau plus psychologique. Hein. Le mode de concernement sociologiquement est le même. Après, les uns et les autres vont psychologiquement tirer des conclusions différentes. Certains diront « moi, je n'irai plus jamais », d'autres disent « moi, je reviendrai bon. ». Et donc, vous voyez, nombre de messages hein, qui mettent l'accent sur la grande famille du rock'n'roll. Les amoureux de la musique, vous voyez, avec des choses ambivalentes. Hein. À la fois les amoureux de la musique, liberté, gaieté, fraternité, et puis une signature... Pas complètement singularisé, Guillaume, il n'y a pas le nom de famille, mais en même temps, il signale d'où il vient, où il habite, Orléans. Et puis donc, autre nous très présent, dont j'ai pas assez parlé en fait dans mon exposé, le nous en tant que musulman. Il y a très peu de nous qui mettent l'accent sur une communauté religieuse. Ça n'existe pas, les gens qui réagissent en tant que chrétiens, grosso modo. Hein. Alors, c'est des gens qui vont déposer des prières, mais qui ne vont pas dire qu'ils réagissent en tant que chrétiens, par exemple. Par contre, évidemment, beaucoup de gens qui réagissent en tant que musulmans, qui se désolidarisent avec les victimes, comme typiquement là, hein, je suis musulman, mais je ne suis pas terroriste, etc. Là aussi, se pose la question de est-ce que ça ne tend pas à être de plus en plus présent dans les réactions. Voilà. Donc là, ce que je vous disais, des réactions en tant que maman, ce qui est une ligne d'investigation, parce qu'on n'avait pas ça, je ne l'avais pas repéré dans les réactions d'attentat de Madeleine, ce n'était pas significatif, alors que là, ça ressort très vite. Et puis donc, des réactions à l'échelle de l'humanité. Hein. Je suis humain, vive l'humanité. Noël, une simple humaine qui pleure ces événements. Voilà. Et puis donc là, je vous disais les valeurs, pour simplement vous dire, là, on retombe sur des choses très classiques. Simplement, la question, c'est leur quantification, et est-ce que donc on a plus souvent liberté, gaieté, fraternité là qu'on pouvait avoir liberté, par exemple, après Madrid et Londres. Donc vous voyez, liberté, égalité, fraternité. Pour vous, on va liberté, égalité, fraternité. Et puis par contre, beaucoup de messages qui disent simplement paix. Hein. C'est très très récurrent, ça aussi bien après Madrid, Londres qu'encore Paris, j'ai l'impression des gens qui écrivent paix. Je pleure pour les victimes et la paix. Voilà, un poème qui dit que nous allons faire une guerre de paix, etc. Bon, voilà. Vous en avez vraiment tout plein. Et puis des déclinaisons, hein. Souvent, ce que j'explique aussi dans le chapitre de mon livre qui est consacré à ça, c'est que les valeurs sont rarement citées seules. Elles vont souvent par pair, et c'est dans leur articulation les unes par rapport aux autres qu'elles font sens. Donc là, on a souvent des déclinaisons de Paris avec des valeurs qui lui sont associées, comme là, vous voyez, paix, amour, là encore, paix, amour, respect. Paix, amour. Paris, paix, amour, ça marche assez bien. Après, il y a des variations sur les trois lettres suivantes, mais voilà. Et puis donc, paix, amour, vive l'amour, faites l'amour, pas la guerre, bon, voilà. Évidemment, ce type de message-là, quand on les passe en vue, on peut avoir l'impression que c'est tout le temps la même chose, et c'est justement dans l'analyse quantitative de l'ensemble qu'on peut voir émerger, c'est ça qui est intéressant. Et puis là, des messages qui mettent l'accent sur la vie. J'explique dans mon livre qu'il y a un triptyque, en fait, à liberté, égalité, fraternité, on peut grosso modo opposer paix, amour, vie, et qui renvoie à une sorte de fond chrétien. Ce triptyque paix, amour, vie est souvent associé du coup à une réponse aux attentats qui doit non pas être la guerre, les représailles militaires, mais l'éducation. Hein. L'éducation à ses valeurs de tolérance, au multiculturalisme, la culture aussi, comme Paris est associé à la ville lumière, à la culture, etc. Donc on retrouve ça quand même pas mal. C'était déjà très présent après Madrid et Londres, là on le retrouve encore. Je pourrais vous dire une prochaine fois combien précisément, parce qu'on arrive au bout du codage, même temps on pourra le quantifier, faire des statistiques. Et donc là vous voyez, hein, vive la liberté, vive l'amour et vive la vie, usons de la culture comme arme de résistance et symbole de liberté. Hein. Comme là on a quelqu'un qui dit l'éducation est la seule arme qui puisse nous permettre de combattre durablement la bêtise humaine. Et puis alors du coup, qui dit culture dit aussi humour. Ça, je le signale pour avoir un peu une note gay, finir sur une note un peu légère. Parce qu'après Madrid et Londres, je ne l'avais pas repéré, et là, ça ressort assez les messages qui veulent humoristiques. Comme là, vous voyez, paix, amour, et non pas vie, mais cookie. Paix, amour, cookie. Ou Paris sera toujours Paris, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre. Ou t'es retriste toi-même. Voilà, donc on a des messages comme ça. C'est pas toujours réussi, hein. Je vous ai mis les messages qui se veulent drôles et qui sont plutôt réussis, mais ça l'est pas toujours. Et puis alors là, vous pouvez pas les lire, mais c'est typiquement ces messages personnels qui sont sur ce mode-là, de gens qui connaissent plus ou moins, qui soit s'adressent à une victime qu'ils connaissaient de près ou de loin. Et donc, bon, là, on ne se connaissait pas beaucoup, mais voilà. Je ne te connais pas, mais je te souhaite un bon établissement après ce que tu as vécu. Alors, on sait pas si c'est quelqu'un qu'il connaît personnellement ou un portrait qu'il a lu. Voilà, les messages sur un mode personnel adressé à des victimes en particulier. Là, vous lisez plus facilement. Voilà. Je ne vous connaissais pas. On précise quand même vraiment précisément le rapport à l'événement. Un collègue de ma fille a perdu un ami. Le petit-fils de ma belle-sœur a perdu des amis. Et puis, je frémis rétrospectivement. Donc, récit personnel. Et puis, il y en a pour plusieurs pages. Vous voyez, des choses comme ça. Complètement à l'autre opposé. Hein. D'un côté, vous voyez, gens qui écrivent « Vive la France » ou « Paix ». Et puis, d'autres, certains qui écrivent ça. Voilà. Et là aussi, bon, c'est de l'agrégation de tous ces messages-là qu'on voit ressortir des schémas récurrents. Et puis des lettres ouvertes aux terroristes. Ça, c'est quelque chose. C'est pour ça aussi, je vous disais, les archives de Paris parlent d'hommages aux victimes. Mais il se trouve que dans ces hommages aux victimes collectés sur les sites, on a à Paris là des lettres ouvertes aux terroristes, ce qui était très peu le cas à Madrid et à Londres. Et là, il y a vraiment des gens qui viennent sur place déposer des messages qui sont adressés non pas aux victimes, mais aux terroristes. Donc lettres aux imbéciles profondément frustrés. Du coup, on code aussi les termes qui sont employés pour les qualifier. C'est intéressant. Est-ce qu'ils sont qualifiés de barbares, d'imbéciles, de sinistre connard, je crois, parfois aussi, enfin, voilà, criminel, sale terroriste. J'aime bien celui-là, il est rigolo. Des hommes qui se battent contre les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Sinon, ça fait quoi de vivre sans neurones ? Pensez à toutes ces victimes que vous avez lâchement assassinées au nom de la connerie humaine dont vous avez été très largement doté. Une Française qui aime son pays et qui n'a pas peur des sombres merdes que vous êtes. Donc, vous voyez comment s'articulent différentes choses là aussi. Voilà. Aussi, là on touche à un autre type de réaction, des messages qui sont politiques. Hein. Là, je vous ai parlé quelque chose de quand même très dans la cohésion, la compassion, la solidarité. Il y a aussi de l'indignation, de la véhémence qui s'adresse souvent alors aux terroristes, la trouvaille aux terroristes, mais aussi, ça c'est une constante après Paris, comme après Madrid, comme après Londres, aux dirigeants politiques hein, et qui relient l'attentat en Occident aux guerres qui sont menées à l'étranger, au Moyen-Orient. Donc vous voyez là, stop la guerre, nos soldats doivent protéger nos vies ici, retour des troupes urgents. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle, parce que j'ai l'impression que même l'écriture est la même, comme si c'était la même personne qui était à Madrid en 2004 et à Paris en 2015, qui écrit la même chose, hein, retour des troupes, en mettant en parallèle Bagdad et Madrid hein, en 2004. Voilà, donc des messages comme ça. Et ceux-là sont très rares, parce que ceux-là aussi, hein, souvent, ils sont arrachés, ils sont comme les messages qui incitent à la haine raciale, il y a des gens qui les trouvent pas convenables et qui les arrachent, donc ils sont rares dans le fond. Voilà. Je vous disais qu'on fait des enquêtes ethnographiques, donc voilà, typiquement, c'est des photos prises pendant nos enquêtes, où du coup, on a pu enquêter même sur le travail de collecte des archives, on les a accompagnées, donc vous voyez, en janvier, là, une collecte en janvier, puis ensuite, tout le mémorial qui est nettoyé, puis après, on a pu voir comment il se reconstituait progressivement. Là, vous voyez, les choses collectées par les archives dans les bennes. Alors, il y a ça aussi, hein, qui n'est pas archivé, évidemment, tous les messages à la craie, les tags, là, on n'a que des photos pour documenter ça, donc c'est... Est-ce qu'il s'y dit des choses différentes ou pas ? Bon, voilà, c'est très compliqué. On a essayé de photographier tout ça. Après, elle a posé la question de se poser la question d'arriver à analyser cette masse de matériaux au bout du compte aussi. Hein. Ça, c'est à Nice, hein, où donc, typiquement, à Nice, rien n'a été collecté. Et sur la promenade des Anglais, dans les jours qui ont suivi, ça, c'est pas moi qui ai pris cette photo-là, mais c'est un ami journaliste qui y était dès le lendemain même. Vous voyez, tout le trottoir recouvert de messages à la craie. Et évidemment, on n'a aucune autre trace de ça que ces photos-là. Et donc je vous disais, pour vraiment finir, travaille sur internet aussi, puisque, alors là c'est une page Facebook, 17 plus jamais, c'est un collectif qui s'est créé à la suite des attentats de Charlie Hebdo, enfin de janvier 2015, pour entretenir les mémoriaux populaires justement en République, parce qu'à l'époque les archives de Paris n'avaient rien fait, les mémoriaux n'étaient pas entretenus, donc ce collectif s'est autoproclamé gardien de la mémoire, on a souvent des phénomènes comme ça, hein. Et donc un membre de l'équipe Réat a intégré l'équipe, en fait, a fait une observation participante dans le groupe. Et l'existence de ce groupe explique aussi que malheureusement, vraiment malheureusement, c'est un des grands manques, les archives de Paris en novembre n'ont rien collecté à République. Pour éviter de rentrer en conflit avec ce groupe-là, qui s'était créé, enfin vraiment autoproclamé gardien du Temple, pour éviter tout conflit qui aurait pu être médiatisé, générer de la polémique, des pétitions, etc., la mairie de Paris a voulu la jouer cool, elle a dit aux archives de Paris, vous collectez sur les sites des attentats, mais pas à République. Ce qui devait peut-être aussi les arranger, parce que le message à la République était globalement beaucoup plus politique qu'il ne pouvait l'être devant le Bataclan ou sur les sites des attentats. Et donc rien n'a été collecté, et donc nous on a évidemment fait un travail ethnographique, à la fois sur le collectif et sur le mémorial en lui-même à République. Et puis bon, fin de l'histoire, le collectif ne sait plus jamais, a quasiment... c'est quasiment dissous et un membre du groupe qui avait récupéré chez elle, qui était un peu l'archiviste du groupe, a fait don de ces messages, de ces choses qu'elle avait chez elle aux archives de Paris, mais ça correspond en tout et pour tout une centaine de messages sur les plusieurs milliers qu'il pouvait y avoir à République. Et puis donc les tweets, je vous le disais, donc les tweets grâce à Lina essentiellement, parce que Lina en plus a développé. Le problème des tweets, c'est qu'ils sont archivés par des institutions dans le cadre du dépôt légal du web. Mais ça implique que du coup, vous ne pouvez pas récupérer leurs fonds, il faut travailler dans leurs emprises. Il faut travailler soit à la BNS, soit à Lina sur leur serveur. Vous ne pouvez pas récupérer les données, sinon on déroge à la loi. Et donc il faut que les institutions en question vous dotent des moyens techniques de travailler sur ces matériaux-là. Et donc là, Lina a développé un outil qui est là, voilà, une interface qui est maintenant en libre accès sur les postes de consultation de l'INATEC, donc essentiellement à la BNF, mais je crois aussi bientôt sur les postes de province, et qui permet donc d'explorer les tweets. Et donc, vous voyez, bon, pour le 13 novembre, on a plus de 20 millions de tweets qui ont été archivés, avec différents hashtags qui ont été archivés de manière systématique. Donc, vous avez là un aperçu. Et là, vous avez le tout premier tweet qui parle des attentats. Vincent Berthézen, qui est un journaliste télévision, un jeune journaliste qui habite dans le quartier, juste au-dessus du bar du Carillon, et qui donc, en fait, signale qu'il y a des tirs sur le bar du Carillon. Et ça permet notamment de voir ça ensuite. Hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'avant même, bien avant qu'on en parle à la télévision, sur Twitter, il y a un débat sur qu'est-ce qui se passe, en fait. Hein. Ce que j'ai analysé dans mon premier chapitre de mon livre, sur la qualification des faits, la définition de la situation, pour parler comme Goffman, qui se déroule en direct pour le 11 septembre, hein, ou le 11 septembre, si vous reprenez les vidéos qui sont sur YouTube, vous voyez les journalistes qui disent il y a un avion qui s'est crashé dans le Retreat Center, la tour est en feu, on comprend pas, peut-être un petit avion, ah non c'est un gros avion, puis il y a le deuxième qui percute en direct la deuxième tour, alors même qu'ils sont à l'antenne, ils disent ah il y a une explosion, il faut qu'ils passent le replay pour comprendre qu'en fait c'est un autre avion qui a percuté l'autre tour et pas une explosion dans la même tour, enfin la définition de la situation elle se fait en direct et les bandeaux évoluent au fur et à mesure, c'est catastrophe au Retreat Center, c'est attaque terroriste au Retreat Center et puis c'est l'Amérique en guerre. Bon. Et là cette qualification des faits pour le 13 novembre elle se fait sur Twitter en fait, avant que les télés prennent l'antenne. C'est, voilà, tir sur le Carillon, ça ressemble plus à un règlement de compte, c'est une attaque à la Kalachnikov, des tirs à la volée, qu'ont l'origine, combien de morts. Là, il y en a un qui demande est-ce que c'est des tirs modérés, l'autre qui dit non, tir en rafale. Bon. Et donc, quand les journalistes prennent l'antenne, ils savent déjà que ce qui s'est passé au Carillon, c'est pas un règlement de compte sur une ou deux personnes, mais ça a été des tirs en rafale et a priori quelque chose de terroriste. Et donc, dernière chose, hein, l'analyse des tweets, elle permet donc à la fois d'analyser ça, la médiatisation des événements, encore, on ne peut plus analyser la médiatisation des attentats sans prendre en compte Twitter, mais aussi la réaction de la société civile, parce que donc, vous voyez, les mots d'ordre qu'après on retrouve répétés dans les messages, dans les mémoriaux populaires, en 2001, c'est « Nous sommes tous américains », et donc c'est un édito de Jean-Marie Colombani à la une du Monde 24 heures après. Maintenant, le « Je suis Charlie », il part sur Twitter, quoi, ça commence sur Twitter. Donc là, un des objectifs aussi maintenant pour nous, c'est de pouvoir articuler l'étude des réactions hors ligne, on va dire, dans la rue, dans les mémoriaux populaires, et les réactions en ligne sur les réseaux sociaux. Et donc là, vous avez un graphique qui vous montre l'évolution des différents hashtags avec, pareil, là vous risquez pas de voir grand chose, et je me lève pour que vous compreniez rapidement. Au début, en fait, là, vous voyez, le plus gros hashtag, c'est Paris, parce que c'est des hashtags informationnels, c'est « il se passe quelque chose à Paris ». C'est les 24 heures, hein, c'est les 24 heures après, à partir du moment où ça commence, c'est 21h, le 13 novembre à 21h, jusqu'à 21h le 14 novembre. Et donc au début, vous voyez, le premier hashtag, c'est Paris, il se passe un truc à Paris. Et puis ensuite, c'est... une demi-heure après, c'est plus Paris seulement, c'est Paris Attacks qui apparaît. Paris Attacks et puis en même temps le Pray for Paris et le Portes Ouvertes en orange qui sont là. Donc on a compris que c'était un attentat et puis du coup on commence à s'organiser pour faire face à l'attentat. C'est le slogan Portes Ouvertes pour permettre à des gens qui sont dans les quartiers de se réfugier. Et puis c'est le Pray for Paris qui commence à émerger là en orange, vous voyez, juste un peu après. Hein. Donc là, le bleu c'est Paris Attacks, ce orange là qui pointe tout de suite, c'est le Portes Ouvertes, et puis qui redescend dès que c'est fini, dès que l'assaut a eu lieu, qu'il n'y a plus de crise, le Portes Ouvertes redescend, comme le Paris redescend. Par contre, ce qui va rester là, qui va générer une sorte de plateau, et là aussi, en vert, c'est les hashtags de compassion, c'est les mots d'ordre, c'est le Pray for Paris, et puis c'est... les verts, c'est Bataclan fusillade, je vous dis une bêtise, Bataclan fusillade, qui sont là dès le départ aussi, et puis qui ensuite servent quasiment plus à rien, parce que c'est sur les lieux précis. Par contre, donc voilà, le Pray for Paris, il démarre un peu après, vous voyez, en cloche autrement, et puis après, il est là, il se maintient à ce niveau-là. Bon. Et puis, il y a d'autres, en réaction au Pray for Paris, il y a d'autres hashtags de réaction d'attentats qui se développent, mais qui sont moins importants, et après, c'est intéressant de voir qui porte quel mot d'ordre, et dans quelle mesure est-ce qu'on les retrouve ou pas dans les messages archivés par les archives de Paris. Voilà, bon, j'ai trop parlé, je vais m'arrêter. Merci à tous.